Au chapitre 6, les versets 3 à 13 de l'Épître aux Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 151 dans Louange et prière, le petit recueil bleu, le 151, Christ est ressuscité, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous lever. Père béni sois-tu, au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, Ouvre notre cœur à ta parole pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Que sa parole soit notre vie. Au cœur du christianisme, il y a l'extraordinaire personnalité de Jésus. Aux origines de l'Église, la mémoire de Jésus, ce souvenir dangereux de la liberté du Christ que j'évoquais jeudi soir, cette mémoire a été conservée et transmise par deux tradition. Les uns ont été fascinés par le maître, le rabbi, et ils ont précieusement retenu ses paroles et son enseignement. Les béatitudes, cette charte du royaume, les paraboles, ces historiettes pleines de sel qui sont là pour nous donner à penser, le Notre Père, les sentences qui révèlent en Jésus un maître de sagesse, et puis encore les questions que, tel un Socrate galiléen, il avait l'art de poser à ses interlocuteurs, ou encore ses controverses avec ses adversaires qu'il clouait sur place par des réparties aussi inattendues que définitives. Oui, pour beaucoup, Jésus était avant tout un prophète, un sage, un pédagogue et, dans tous les cas, un maître de la parole. D'autres, et c'est la deuxième tradition que j'aimerais mettre en lumière, ont été subjugués par la résurrection de l'homme que l'on avait fait périr sur la croix. Celui qui était mort, il est vivant. Celui qui gisait, il a été mis debout. Celui qui s'était endormi, il s'est réveillé, abaissé, il a été exalté par Dieu. Autant d'expressions, autant de langages qui, avec des mots humains, essayent de nous dire ce qui relève de l'inimaginable, ce qui relève de l'impensable. Et les évangiles, ces opuscules auxquels notre foi ne cesse de se référer, sont nés sans doute de la fusion de ces deux traditions. Ils nous racontent d'ailleurs assez rapidement ce que fut le ministère de Jésus, ils nous décrivent sa passion et ils nous transmettent la joyeuse annonce qui nous rassemble en ce matin de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. L'apôtre Paul, dont je viens de lire un extrait de la lettre aux Romains, se rattache nettement à la deuxième tradition. Jamais dans ses lettres, en effet, il n'évoque les péripéties de la vie de Jésus et il ne cite quasiment aucune parole du rabbi de Nazareth. En revanche, il ne cesse d'évoquer la résurrection qui pour lui est comme le tournant de l'histoire. Son affirmation est claire, déterminée, vous l'avez entendue dans l'extrait que je viens de vous lire, il écrit « Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, Christ ne meurt plus, la mort n'a plus sur lui aucune emprise. » Alors, j'aimerais me demander avec vous ce matin, en quoi cette affirmation de la résurrection constitue une bonne nouvelle? Eh bien, le message de Pâques, il est pour chacun d'entre nous, je crois, une promesse, un constat et un appel. Une promesse, tout d'abord. Paul, en effet, écrit que si nous avons été totalement unis, assimilés à la mort de Jésus, nous le serons aussi à sa résurrection. Nous ne sommes donc pas encore associés à la résurrection du Christ. Mais bonne nouvelle, nous le serons. C'est un futur. Et Paul, dans cette lettre, s'applique à montrer comment l'espérance de notre propre résurrection vient se greffer sur notre foi en la résurrection du Christ. Il le dit, le redit sans cesse, « Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi ». Il le dit à plusieurs reprises dans les lettres aux Corinthiens. Voilà. Ce que Dieu a fait pour cet homme, Jésus, il le fera également pour nous. Telle est donc la certitude fondamentale qui nourrit l'espérance chrétienne. Et il y a de ce fait, chers frères et sœurs, une parole possible sur les fins dernières, sur l'au-delà. Oui, par-delà la nuit du tombeau, nous goûterons la joie de vivre en la présence de Dieu avec le ressuscité. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, nous n'en savons rien. Nous en avons seulement l'espérance. Et le Nouveau Testament se refuse à nous livrer quelques descriptions de l'au-delà que ce soit. Parce que le monde de la résurrection, il est aussi inimaginable que Dieu lui-même. Prétendre savoir de science certaine et informée ce qui est au-delà de la mort, c'est peut-être même se prendre pour Dieu. Mais renoncer à décrire un au-delà, c'est aussi témoigner une marque de confiance à l'égard de l'Éternel. Oui, car l'éternité est l'avenir de Dieu. L'au-delà est le lieu de Dieu, et pour tout cela, nous sommes invités à nous en remettre à lui. Nous sommes appelés à consentir à la nouveauté radicale de cet au-delà. Car bien sûr, la résurrection, elle n'est sans doute pas la continuation ou la reproduction de la vie d'ici-bas. Et nous devons casser toute idée de continuité entre les représentations de l'avant-mort et celles de l'après. Mais ce qui nous est donné à penser, c'est que la résurrection est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Dieu créateur. Et confesser Dieu comme celui qui donne la vie conduit aussi à le reconnaître comme celui qui peut la redonner, qui peut recueillir en son souffle une vie lorsqu'elle s'éteint, afin de lui accorder un nouvel élan, un nouveau bon. Enfin, nous pouvons tenir qu'il y a une permanence entre l'avant et l'après de la mort. Le ressuscité est bien le même que le crucifié. Et je veux espérer que ce que je suis, Dieu le recueillera et le renouvellera d'une manière que lui seul connaît. Oui, il nous est promis que nous aussi, nous ressusciterons, tout le reste nous échappe. Et notre espérance, notre petite espérance, est souvent mise au défi. Alors pour l'instant, puisque nous ne sommes pas encore ressuscités, que sommes-nous? Sommes-nous morts? Sommes-nous vivants? Va savoir. Paul, en fait, dresse un constat lorsqu'il s'adresse aux membres de l'Église qui est à Rome. Et là, il y va très fort. Il soutient cette chose difficile à entendre, à savoir que nous avons été ensevelis avec Jésus en sa mort, que nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne. Oui, nous sommes morts, nous avons été plongés, nous dit-il, dans la mort de Jésus. Jésus, cet homme, l'envoyé de Dieu, né d'une femme qui appartient à un peuple, à une culture précise, cet homme a vécu en témoin de Dieu, dans une relation filiale à celui qu'il appelait son père. Il est allé jusqu'au bout de son engagement et Dieu lui a finalement rendu justice en le relevant d'entre les morts. Eh bien, Paul nous donne l'assurance que nous sommes en communion avec cet homme dans toutes les dimensions de sa trajectoire, dans toutes les dimensions de sa vie, jusque dans la mort. Et par quels moyens ? Eh bien, Paul parle du baptême. C'est par le baptême que nous sommes unis à Jésus, à la mort de Jésus. Il faut mesurer, je crois, la portée de cette affirmation. Il serait en effet illusoire de penser qu'un rite suffirait à nous associer quasi automatiquement à Christ. Ce qui nous unit à Jésus, en fait, c'est la foi. C'est elle qui nous rattache à lui. C'est par elle que nous sommes greffés sur lui par un lien vital, existentiel, parce que la foi, ça nous prend dans toutes les dimensions de notre être, intelligence, affectivité, volonté. Paul emploie un mot très fort. Nous ne sommes pas seulement plongés, mais nous sommes immergés en Christ. Deux mots différents. D'ailleurs, un écrivain de l'Antiquité, tout à fait étranger au monde religieux, utilise ces deux mots, plonger et immerger, pour parler de la recette pour faire des conserves au vinaigre. Et il dit que le légume doit d'abord être plongé, bapto, dans de l'eau bouillante, puis immergé, baptizo, dans le vinaigre. Il y a deux bains. Un bain très court, dans l'eau, et puis un second bain qui, lui, est beaucoup plus long, qui est une action de longue durée considérée comme définitive. En soutenant que le croyant est immergé en Christ, Paul, alors, fait référence beaucoup plus à la foi, notre vie tout entière, qu'au passage très bref dans l'eau du baptême, comme je viens de le faire. Le rite, ce rite que nous venons de célébrer, n'est finalement qu'une parole mise en geste. Il n'est que le symbole, mais ô combien parlant, de cette foi qui prend toute notre existence, cette foi par laquelle nous adhérons à Jésus-Christ, puisqu'entre lui et nous, c'est à la vie et à la mort. Alors quand Paul écrit « Vous avez été immergés dans la mort du Christ », c'est un équivalent de « Vous avez cru en lui ». Oui, unis à la mort de Jésus. Paul ne nous dit pas que nous sommes rendus participants de sa mort et de sa résurrection. Non, en disant que nous sommes associés à la mort de celui qui est aujourd'hui vivant, il nous ouvre une fenêtre, non pas sur un au-delà fantasmatique, mais sur le réel de nos vies, ici et maintenant. Il l'écrit, nous avons été enseveli en sa mort, afin que nous menions aussi une vie nouvelle. Nous ne ressuscitons pas avec le Christ, c'est pour plus tard, mais il nous est donné aujourd'hui d'entrer en nouveauté de vie. Car notre foi dans le Christ ressuscité, elle peut modifier de façon décisive les horizons de notre existence et notre manière de vivre la vie. Oui, la réalité de l'expérience chrétienne, elle se formule non point en termes de résurrection, mais en termes de vie, et plus précisément de vie nouvelle. Oui, la foi nous enseigne qu'un homme a accompli la totalité du chemin qui mène à Dieu. L'espérance nous indique que cet accomplissement sera aussi le nôtre. En attendant, la foi nous pousse à entrer dans le même mouvement que Christ, puisque nous sommes unis à lui dans sa mort. Le message pascal, alors, il est donc un appel lancé à celui qui reçoit l'Évangile. Estimez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous espérez en la résurrection, vous croyez que Jésus est sorti du tombeau, eh bien, en attendant, vivez comme des ressuscités. Et quelle est la forme de cette vie nouvelle? Eh bien, Paul nous dit qu'elle est d'abord une libération. Une libération de quoi? De ce qu'il appelle le péché. Le péché et pas les péchés. Le péché, qui pour Paul a les allures d'une puissance, eh bien, c'est la condition humaine tout entière, dans sa faiblesse, dans son impuissance, dans ce qui la sépare de Dieu. Il s'agit d'une reconnaissance de ce qu'est l'être humain en profondeur lorsqu'il cède à la tentation de tirer son origine et son identité de soi tout seul. Le péché, c'est le refus par l'homme de reconnaître son statut de créature qui reçoit de Dieu la vie, le mouvement et l'être. C'est l'existence qui se pose elle-même comme son propre fondement. Et en fin de compte, le péché, c'est le contraire de la foi. C'est devant Dieu la situation de l'homme qui se veut autonome. Or Christ, l'homme qui n'a été que oui à Dieu, pure capacité de Dieu, qui n'a vécu que pour accomplir l'œuvre de Dieu, qui n'a été que relation à son Père, eh bien, cet homme a vaincu le péché. Et à tout être humain, il ouvre la voie d'une vie libérée de la servitude, d'une vie réconciliée avec Dieu. Et c'est ce que Paul assène aux Romains, ce qu'il nous redit aujourd'hui. Grâce à Dieu, vous êtes morts au péché. Oui, nous ne sommes plus esclaves de cette puissance qui parfois nous fascine, nous asservit et qui en tout cas nous coupe des sources de la vie. Non, la mort n'a plus aucune prise, le péché n'a plus aucune prise sur nous. Notre vieil homme est au cimetière et il convient de laisser les morts ensevelir les morts. Alors cette vie nouvelle, puisqu'elle est libération, elle est aussi service de Dieu. Vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ce service, ce n'est pas autre chose que l'accueil et que la mise en pratique de l'Évangile. Le seul culte, le culte raisonnable, le culte selon le Logos, c'est la vie chrétienne, conçue comme service de cette parole qu'il faut recevoir, partager, transmettre au fil des travaux et des jours. Oui, livrez-vous à Dieu pour la justice. Paul souligne que la vie nouvelle, elle débouche sur des choix éthiques et des choix spirituels. Il n'est pas nécessaire d'en décrire le contenu. C'est en effet une vie suscitée par l'Esprit, et c'est en toute liberté que le souffle de Dieu inspire notre action. Cette vie nouvelle, elle n'est finalement rien d'autre que l'action de l'Esprit qui porte du fruit en chacun de nous. Ce qui ne signifie pas, frères et sœurs, que celles et ceux qui vivent en Christ soient au-dessus des notions ordinaires du bien et du mal. Non, nous ne sommes plus soumis aux lois et aux normes, nous agissons sous la motion de l'Esprit qui répand en nos cœurs la foi, l'espérance, l'amour, ces vertus qui se traduisent en des gestes, des paroles, des actes très concrets. Oui, la vie nouvelle, elle ne fait pas de nous des êtres surnaturels, elle nous rend pleinement humains, car elle nous donne le goût de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. La vie nouvelle, c'est la vraie vie, une vie humaine, tout simplement, une vie désencombrée et accomplie. Chers amis, on prête à Nietzsche un aphorisme sans doute apocryphe. Je croirai à la résurrection du Christ le jour où les chrétiens auront des visages de ressuscité. Cette remarque n'est pas sans justesse. Encore faudrait-il préciser qu'un visage de ressuscité n'est pas forcément un visage d'illuminé. C'est le visage d'un homme ou d'une femme qui prend la vie au sérieux et qui l'accueille dans tout ce qu'elle peut porter de promesses, de nouveautés et d'inventions. Pour ma part, Je crois un peu plus en la résurrection du Christ quand, en effet, je considère autour de moi le visage d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui se relèvent encore pour refuser la fatalité de l'injustice et de la bêtise, la fatalité de la violence ou de l'égoïsme. Je crois un peu mieux en la résurrection quand je croise le visage d'hommes et de femmes qui, parce qu'ils ont de la lumière plein les yeux et de l'amour plein le cœur, attestent que Christ est vivant, sans même prononcer son nom, parfois même en ignorant son nom. Je crois davantage en la résurrection quand je vois des communautés chrétiennes capables de devenir des espaces de pardon et de réconciliation. Car c'est là que se donnent à voir les vrais signes de la résurrection et de la vie nouvelle. Alors bien sûr, il se peut aussi que parfois nos vies personnelles, celles de nos communautés, puissent apparaître comme des contre-témoignages. La remarque de Nietzsche peut s'avérer pertinente, de manière cinglante. Au moins a-t-elle le mérite de nous rappeler qu'il est naïf de croire qu'il suffirait pour entrer dans cette vie nouvelle, de se laisser porter par le courant de la résurrection, de se laisser emporter par un souffle bienfaisant qui rendrait inutile le moindre effort, le moindre combat. Paul, en effet, nous invite, il n'avait pas lu Nietzsche, bien sûr, mais il nous invite à vivre, je cite, « comme des vivants revenus de la mort ». La vie nouvelle, en effet, elle ne va pas sans prendre au sérieux le réel. Il faut avoir traversé la nuit pour connaître la valeur de la lumière. Vous est-il arrivé de faire cette expérience ? Vous étiez solidement arrimé à la vie. Et puis, la tempête est arrivée. Le deuil d'un être cher. La maladie, la vôtre ou celle d'un proche. Un échec, une trahison, un ravage. Et alors vous avez découvert que rien ne nous est dû sur cette terre, ni santé, ni bien, ni amour, ni réussite, rien. Vous avez pris conscience que nous sommes des voyageurs sans bagages. Et peut-être que du fond de la déréliction, l'action de grâce est-elle montée du plus profond de votre cœur, timide, à peine audible, mais bien réelle, une action de grâce pour la vie qui surgit alors même que tout semble perdu, une action de grâce pour l'amour qui demeure quand l'amour même semble mort. Peut-être alors vous êtes-vous découvert comme un vivant revenu de la mort. Au fond, c'est bien cela qui importe, frères et sœurs. Quel signe plus éclatant de la crédibilité de la résurrection, si ce n'est la force qu'elle dépose dans le cœur des blessés de la vie? Comment croire en la résurrection si elle ne nous met pas debout nous-mêmes? Comment la proclamer si nous n'en sommes pas les signes incarnés? Oui, frères et sœurs, bonne nouvelle, aujourd'hui, vous êtes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, devenez ce que vous êtes. Amen.